Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Le samedi 13 et le dimanche 14 octobre, c'est tenu au parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, la 6e édition de Savoir et Faire. Savoir et Faire met à l'honneur les ressources naturelles et l'approche active pour découvrir les multiples connaissances du monde végétal et animal. Sur place, de nombreux intervenants locaux et des savoir-faire artisanaux. Partons à la découverte des différents ateliers présents ce week-end-là. Parmi les associations présentes à Ermenonville ce week-end, il y avait Aventure Nomade.
Bonjour, Martin Bonis, cofondateur d'Aventure Nomade.
Est-ce que vous pourriez la présenter aux auditeurs, s'il vous plaît ?
Alors Aventure Nomade, c'est avant tout une association de revalorisation de l'ensemble des savoir-faire, tout savoir pratique et utile. Et donc l'objectif, c'est de les transmettre au plus grand nombre possible à travers nos animations, qui touchent un large public, donc de 3 à 106 ans, d'être un maximum gratuit ou très peu cher pour que tout le monde puisse y participer.
Donc il y a un intérêt pédagogique derrière.
Tout à fait, donc l'idée ça va être d'apprendre des gestes concrets qui permettent aux gens quand ils ressortent des ateliers d'avoir un maximum d'autonomie sur leur savoir-faire. Et ça va toucher un grand nombre de savoir-faire. Ça peut être de l'argile, ça peut être donc là on travaille du bois, on fait de la vannerie, ça peut être faire des choses un peu plus simples comme des attrape-rêves, ça peut être fabriquer son encre ou sa peinture, etc. Voilà, l'idée c'est d'avoir tout un tas de savoir-faire très large.
Vous êtes basé où ?
Donc on est à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne.
Et vous intervenez auprès de quel public scolaire, je suppose ?
Alors, on intervient auprès des publics scolaires, périscolaires, on intervient auprès de publics totalement ouverts, donc ça se présente sous la forme d'agenda, et les gens s'inscrivent en famille souvent, et participent à des sorties. Ça peut être aussi dans le cadre de ce genre de festival, donc il y a tout type de public qui viennent, des enfants, des adultes, voilà. Importe. Donc on n'est pas limité du tout en termes de public, on travaille même aussi auprès de personnes en situation de handicap dans certains cas, quand les partenaires qui travaillent avec ce genre de public nous contactent. On essaie vraiment de s'adresser à tous en toutes circonstances.
Donc là, dans la manifestation Savoir et Faire ce week-end, vous avez proposé un atelier menuiserie.
Oui, voilà. Donc menuiserie, en réalité c'est surtout du travail du bois, mais menuiserie ça parle plus à tout le monde, parce que menuiserie ça désigne surtout le fait d'assembler des pièces de bois pour construire des objets, alors que là on est vraiment sur de la sculpture, puisqu'on va fabriquer essentiellement des cuillères et des bols. Mais voilà, c'est vraiment pour simplifier le terme que tout le monde accroche directement en disant bah, c'est de ce dont ça va parler. Donc voilà.
Donc le public ce week-end, vous disiez à l'instant, a fabriqué des cuillères et des bols.
Tout à fait. Donc ils ont utilisé différents outils, donc il y a des couteaux, il y a des gouges, on utilise différentes scies, etc. L'idée c'est de montrer aussi que même les enfants peuvent utiliser des outils tranchants et que bien sûr c'est des règles de sécurité qui vont encadrer l'ensemble et faire que tout va bien se passer.
La réalisation elle est assez simple ?
C'est assez simple. Alors l'idée c'est que l'objet, on a trois donc, gammes d'objets, on a les spatules, donc qui sont essentiellement droites sur le côté et qui sont vues de face, qui ont une courbe, donc c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la cuillère qui va avoir des courbes dans les deux faces et le bol qui, lui, est plus sur en termes de longueur qui est une difficulté qu'en termes de technique. Il faut avoir un peu plus de force et puis ça met un peu plus de temps. Mais en soi, un enfant pourrait le faire, c'est juste que ça mettrait pas mal de temps.
Le public a adhéré à ces techniques ce week-end ?
Ah, tout à fait, les gens sont très très contents. C'est, de toute façon, c'est très satisfaisant de partir parce qu'on part d'un arbre coupé, brut, et les gens voient en fait... qu'on va scier, faire des planches avec l'arbre pour pouvoir dessiner dessus. Et ensuite, voilà, on voit vraiment naître un objet sous nos yeux. Donc finalement, c'est assez gratifiant.
C'est de A à Z, en fait.
Exactement, de A à Z. Et on a aussi un atelier vannerie à côté où c'est le même procédé. On part de tiges d'herbe et on obtient un objet à la fin. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de montrer aux gens qu'avec ce qu'on trouve dans la nature, on peut faire des choses très complexes. Et surtout très utile. Et même quand c'est des petits objets qui en soi ne nous serviront pas demain, c'est des objets qui nous permettront de comprendre une technique et de se dire « Ah ouais, ok, ça fonctionne comme ça, donc j'en suis capable. »
Si les auditeurs sont intéressés pour avoir recours à vos services, comment font-ils ?
Alors on a un site internet, aventurenomade.org, et sinon on est beaucoup sollicité sur notre page Facebook Aventure Nomade. Merci.
Parmi les différentes associations présentes ce week-end à Savoir et Faire, il y avait celle qui s'appelait Archéomédia.
Camille, médiatrice en archéologie.
Est-ce que vous pouvez présenter dans un premier temps Archéomédia, s'il vous plaît?
Alors, on est une association de médiation en archéologie. Donc, en fait, on valorise le patrimoine archéologique, historique, mais aussi ethnologique, en partant de données scientifiques. Et on est basé dans le sud de l'Île-de-France, en Essonne, à côté du site archéologique d'Etchol.
Vous avez proposé un atelier qui avait pour nom Production du feu.
Oui, voilà, c'est un atelier qui permet de comprendre comment on pouvait faire du feu sans briquet ni allumette, en utilisant des éléments naturels comme on pouvait le faire à la préhistoire ou à d'autres endroits actuellement.
Concrètement, vous avez proposé une animation au public en montrant les différentes techniques, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Il y a deux techniques qui existent. Alors, il existe une technique pour produire du feu qui est la technique par friction et une autre qui est la technique par percussion avec des silex et l'autre par friction avec du bois.
Est-ce que vous pourriez détailler les deux techniques? La première, c'est par friction, c'est ça?
Voilà, alors la première par friction consiste avec un archer et deux bouts de bois sur une planchette avec des trous à faire tourner un premier bout de bois qui est une tige. Pour créer de la sciure, cette sciure va s'accumuler et va finir par créer une braise. Donc ça, c'est souvent ce que les gens voient à Internet, Koh-Lanta, voilà, qui nécessite juste du bois. Et l'autre technique, qui est percussion, nécessite une marcassite, qui est une pierre en fait avec du minerai ferreux, sur lequel on va venir frapper une autre pierre dure, qui peut être du silex, qui va créer une étincelle et qu'on va faire tomber sur un champignon qu'on appelle l'amadou pour avoir une braise. Et là, quelle que soit la technique, on arrive à la même résultat, on a une braise qu'on va mettre dans de la paille pour faire du feu.
Les deux techniques, elles sont apparues quand? Une au paléolithique et l'une au néolithique, c'est ça?
Alors non, en fait, on peut pas, on n'est pas sûr à 100% de quand elles sont apparues. On sait qu'on fait du feu depuis moins 800 000 ans. C'est l'époque de l'Homo erectus, homme de Totavel. On a retrouvé des foyers. On retrouve très peu de vestiges anciens de comment fabriquer du feu. Le bois pourri. Et la marcassite, on en retrouve peu. Par contre, on retrouve des briquets en silex. Donc ensuite, les archéologues ont cherché comment on pouvait faire du feu avec des éléments naturels. En se référant à l'ethnologie, on a pu trouver que ces techniques-là étaient des techniques faisables. Donc, après, savoir où exactement et lesquelles ils ont utilisé. On peut penser, par exemple, dans la Somme, quand vous êtes près de la baie de Somme, notamment, et que dans les falaises calcaires, il y a beaucoup de marcassites qui ont utilisé ces techniques-là. D'autres régions où il n'y avait pas de marcassites, ils ont peut-être plutôt utilisé le bois.
Alors, en fonction de la région et des végétaux.
De ce qui était disponible.
Le public, je suppose, comme tous les ans, est intéressé et arrive à fabriquer du feu.
Alors, ce n'est pas ce qui est le plus simple. La première, déjà, c'est quand ils arrivent à faire tourner, à essayer de faire un peu de sueur, c'est déjà très bien. Après, on a des adultes, des fois, qui arrivent. Donc après, ça va vraiment dépendre. Et le but, c'est de commencer à initier, que les gens voient comment on pouvait faire. Et puis, des fois, des enfants et des adultes y arrivent. Et voilà, ça peut arriver. Merci à vous.
Voilà, bien se positionner, c'est super.
À mes côtés, nous avons un membre de la compagnie d'arc du Grand Saint-Martin d'Hermenonville. Vous êtes le capitaine précisément.
Tout à fait, je suis capitaine depuis 2 ans. Moi, je suis Monsieur Guy Michel.
Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez justement présenter votre compagnie, s'il vous plaît?
Oui, donc la compagnie a été reprise dans les années 1980. Et puis, ça représente des personnes qui sont non seulement d'Hermenonville, mais aux alentours d'Hermenonville, qui représente la commune d'Hermenonville. Et nous sommes une bonne quarantaine d'archers sur le site d'Hermenonville.
Vous pouvez expliquer votre fonction de capitaine?
Alors, le capitaine est réélu tous les ans. Pourquoi? Parce que nous avons une petite chose qui s'appelle la balle oiseau. Donc, c'est une perche qu'on met à 22 mètres de hauteur. Et les archers sont priés de tirer sur un oiseau. Donc celui qui abat l'oiseau devient un roi de compagnie. Tout le bureau démissionne et tous les ans, on réélit le bureau. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis réélu avec le bon vouloir des archers. Mais tout le monde peut être non seulement roi de compagnie s'il abat l'oiseau, mais aussi capitaine et puis autre membre du bureau.
Donc là, actuellement, dans un lieu assez mythique, on est précisément au berceau jeu d'arc.
Voilà, tout à fait. C'est un jeu d'arc donc, qui date de, je vais vous dire, à peu près 1700 et quelques. Donc c'est un jeu d'arc qui est classé. Ce jeu d'arc nous permet de faire quelques démonstrations donc, extérieures, comme je disais tout à l'heure. Mais nous n'avons plus le droit d'exercer du tir à l'arc sur les 50 mètres parce qu'il n'est plus homologué. Donc, il reste classé, il restera là pendant des années. Mais voilà, on s'en sert uniquement que pour des petites démonstrations avec des petits tirs à 10 mètres.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce jeu d'arc ?
Alors, ce jeu d'arc, la particularité, donc, c'était un des premiers jeux d'arc qu'il y a eu sur la commune d'Hermenonville. Comme tous les jeux d'arc de compagnie, donc, on a ce qu'on appelle la butte d'attaque et la butte maîtresse. La butte maîtresse, c'est la butte où on démarre le tir à l'arc et on va donc envoyer des flèches sur la butte d'attaque. Et une fois qu'on a tiré sur la butte d'attaque, toutes les archers reviennent sur la butte d'attaque pour retirer sur la butte maîtresse. Et ça, pendant, je dirais, 20 haltes ou 30 haltes.
L'archerie fait vraiment partie de l'histoire du pays de Valois depuis très longtemps, hein, depuis le Moyen-Âge.
Mais effectivement, de toute façon, la région du Valois, la Picardie, des Hauts-de-France, finalement, c'est vraiment la région d'archerie, avec le musée de l'archerie qui se trouve à Crépy-en-Valois. Si vous voulez, tout autour, sans exagérer, pratiquement, je dirais, 80% des villages sont équipés d'une compagnie d'archerie.
Donc ce week-end, monsieur, vous avez proposé un atelier d'initiation ?
Tout à fait. Donc on accepte toutes les personnes, je dirais de 10 ans à 99 ans, parce qu'avant 10 ans, les enfants voudraient bien, parce que c'est quand même bien sympathique à voir, mais ils n'ont pas la force, parce qu'un arc, c'est quand même puissant.
Quel type d'arc vous avez à côté de vous, là ?
Alors là, ce sont des arcs d'initiation, c'est-à-dire que ce sont des arcs en bois. La personne qui vient tirer même chez nous, eh bien, on les initie au tir à l'arc avec ces arcs-là au début, parce qu'il faut apprendre les gestes, il faut apprendre à savoir tenir un arc, il faut savoir tirer sur une corde. Donc pendant, je dirais, 6 mois, 1 an, on les habitue à tirer avec ces arcs-là. Et en moyenne, entre 6 mois et 1 an, les gens qui s'accrochent au tir à l'arc, ils vont vouloir leur propre arc. Donc là, on fait un échange avec nos arcs à nous, qui sont beaucoup plus sophistiqués. On les fait tirer avec, savoir ce qu'ils en pensent, ce qui va bien. Et on les envoie donc dans des magasins d'archerie.
Quels sont les conseils, monsieur, pour être compétent au tir à l'arc ? La concentration, je suppose ?
Alors, vous avez, oui, bien sûr, la concentration. Et puis, tout ce qui découle de tout ça, c'est-à-dire la politesse, déjà, c'est une bonne chose. Savoir écouter. Pas faire n'importe quoi, ça reste un sport dangereux. Toutes les personnes qui sont avec nous, on les forme à ça, sans les brusquer, parce que bon, on est une petite compagnie familiale et on ne veut pas non plus être champion du monde. Voilà, c'est pas notre but. Nous, notre but, c'est de former des gens et le respect surtout, le respect des personnes.
Si les auditeurs sont intéressés pour éventuellement vous rejoindre ou tout simplement pour avoir une initiation par rapport au tir à l'arc, comment font-ils ?
Chez nous, nous prenons les jeunes principalement le mercredi après-midi de 14h30 à 17h. Quant aux parents, l'ouverture se fait le dimanche matin, 9h30, 10h jusqu'à midi.
Le public a été curieux et attentif et a apprécié de tirer peut-être pour la première fois pour certains.
Ah bah oui, parce que beaucoup de gens pensent que le tir à l'arc, eh ben, ça leur rappelle leur enfance parce qu'ils avaient des petits arcs en bois et là ils s'aperçoivent que vraiment, vraiment c'est un sport à part entière parce que effectivement il y a une position à tenir, il y a une réglementation et puis ça reste, comme je disais tout à l'heure, un sport dangereux. Donc il faut faire très attention. Je souligne même une petite chose, il y a des personnes qui achètent des arcs pour leurs enfants, donc des arcs dans un grand magasin, et ce sont des arcs qui ont un bout avec des embouts ventouses. Il faut faire très attention à ça, il faut très bien les encadrer, parce que comme je vous dis, on peut enlever facilement la ventouse et ça peut devenir très dangereux. Donc faites très attention, si vous achetez un arc, encadrez les jeunes. Voilà. Ou sans ça, on est là aussi pour vous former, donc n'hésitez pas à venir nous voir et puis au moins vous ferez voir. Merci à vous.
Raphaël, 6 ans.
Est-ce que tu peux nous dire quel atelier tu as fait ce dimanche ?
Fabrication du pain. En fait, au début, on avait une pierre et on prenait des graines, on les mettait sur la pierre avec une autre petite pierre. On écrasait les graines, après ça devenait de la farine et après on a mis ça dans un bol. On a pris une noix, on l'a cassée, on les a mis dans le bol avec, on a mis un petit peu d'eau et après on l'a fait cuire sur le coin du feu.
Et tu as participé aussi à l'atelier tir à l'arc ?
Oui, tu devais mettre une épaule baissée, tu devais allonger ton bras, prendre de la force dans les bras. reculer le bras où là on doit tirer avec le petit fil. Après, on lâche et puis ça se lance.
Tu as apprécié, Raphaël, de venir cette année à l'édition 2018 de Savoir et Faire.
Oui, parce que j'ai appris des choses et je me suis amusée. Je conseille à tout le monde de venir l'année prochaine. Au revoir.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc en ce dimanche 14 octobre au parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville pour assister à l'édition Savoir et Faire 2018.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur, à très vite sur l'antenne d'RVM.